Azimut, Azimut.
Bonsoir, c'est la rentrée et vous retrouvez Azimut, votre émission de découverte musicale. Ce soir à la technique, le merveilleux Baptiste, secondé de Brian, notre petit nouveau. Bonsoir Anne, tu vas nous faire une interview de choc, j'espère, pour cette rentrée fulgurante.
Bah j'espère, et puis salut Sybille.
Salut. Qui c'est qu'on reçoit ce soir? Il y a beaucoup de monde autour de cette table.
Alors, pour commencer cette nouvelle saison d'Azimut, on vous invite à monter dans la machine à remonter le temps de nos invités, quelque part entre la côte ouest des États-Unis des années 60 et le London Calling des années 70. Ils sont 5, mais seulement 4 autour de la table, et seront nos guides pour cette balade musicale, ou devrais-je dire orchestrale, si on se fie à leur nom de groupe, dans leur univers aux teintes colorées et saturées et à l'air entraînant. Après avoir écumé de nombreuses scènes franco-suisses en laissant derrière eux une traînée d'optimisme, ils ont donné vie à un album il y a un an, Velvet Glove. Donc bienvenue ce soir aux membres de The Monkberry Moon Orchestra. Salut.
Salut.
Bonsoir.
Bonsoir, salut.
Alors si on fait un petit tour de la table, on a Audrey, honneur aux dames, qui est juste en face de moi. Salut Audrey.
Salut.
Il y a Yann.
Bonsoir.
Fred.
Bonsoir.
Alex.
Salut.
Et Maxime qui n'est pas là, donc voilà, on a fait l'appel.
Salut pour lui.
Presque tout le monde est là. Alors j'ai parlé dans mon introduction d'une machine à remonter le temps pour évoquer un peu vos influences musicales, on y reviendra après. Justement, si on vous prêtait une machine à remonter le temps à chacun de vous, à quelle époque ou quel moment est-ce que vous aimeriez vivre ou revivre?
La deuxième guerre.
Ça commence bien.
Ça commence bien, ils tirent tous la gueule.
Je vais pas dire deuxième guerre mondiale.
9, 47.
Ça peut être au niveau musical ou à un autre moment.
Non, j'en sais rien du tout. Hein.
Ça, c'est la chemise à carreaux intemporelle.
Les années 60, ça aurait été rigolo. Aller à Woodstock, ça aurait été marrant. Je t'aurais bien vu tout nu dans la boue à Woodstock.
C'est ça.
Avec des moustaches.
En ta compagnie,
fou,
ouais. Avec ta femme.
La tienne aussi.
Non, je sais pas. Peut-être au niveau musical, pour être plus sérieux. Comme on est influencé par ces années 60-70. Donc peut-être à cette époque-là, ça aurait pu être sympa. À Londres en 67-68. Voilà.
D'autres idées, d'autres envies imaginaires?
Je sais pas, c'est difficile en fait de se dire qu'on aurait préféré un truc, une époque plutôt qu'une autre. Après, ouais, au niveau musical, on a des goûts précis justement dans ces décennies au niveau esthétique. Après, il y a toujours des choses qui font rêver dans le passé, même au 19e ou même avant. Mais je crois qu'on est bien là, quoi.
Alors, votre groupe s'est formé en 2010, justement, si on reprend cette machine à remonter le temps. Il y a 5 ans, donc. Dans quel état d'esprit étiez-vous à cette époque?
Eh ben, on était dans un état d'esprit où on s'est dit on va faire un groupe et puis on va faire la fête, ça va être sympa. On avait déjà des projets à côté. Au début, le groupe était complètement différent. Enfin, on est les deux rescapés du...
Donc Audrey et toi.
Voilà, des line-up, enfin, du groupe d'origine. Ça a beaucoup changé, on était assez nombreux. Et puis, au début, on a enregistré plusieurs 4 titres, en fait, des EP. Et puis, à chaque fois, le groupe était différent. Puis, sur le dernier EP... le groupe s'est stabilisé et puis mais voilà, au début on travaillait beaucoup, on répétait beaucoup, on jouait pas beaucoup, on faisait pas beaucoup de concerts parce que on était surtout une bande où on s'entendait bien. Et puis après, avec le temps, on s'est aperçu qu'on était quand même un peu nombreux, que tout le monde n'avait pas les mêmes envies, que nous on voulait un peu avancer. Et puis au final, on a eu on avait pris le mot orchestra parce qu'on était vraiment nombreux, on était 7 ou 8 au début. Et puis ça faisait un peu la famille, quoi. Puis après, au bout de quelques années, on était plus que 5, enfin plus que surtout nous 4, quoi. Et puis du coup là après, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à jouer, à faire des scènes importantes ou des trucs intéressants en tout cas.
Donc tu dirais que vous diriez même, ça serait intéressant d'avoir l'avis des nouveaux venus, justement ceux qui sont arrivés plus sur le tard. Aujourd'hui, vous avez plus un état d'esprit qui va peut-être plus de l'avant avec des projets plus précis?
Apparemment, ouais, je pense c'est un peu le cas. Disons que là, surtout l'objectif, c'est de faire un peu des albums de musique qui nous plaisent, faire de la scène. On essaye. C'est vrai que le fait que tout le monde est aussi différent en groupe, c'est plus compliqué de perdre trop de temps aussi un petit peu à juste faire des répètes et jammer, c'est vrai. Mais du coup, non, je pense qu'on sait ce qu'on veut. On a pas mal de compositions, on a des projets autres avec un chanteur lyonnais, Lauren Stewart, actuellement pour un projet d'album courant l'année prochaine. Voilà, je pense qu'on essaie de pas trop perdre de temps et puis de profiter d'être ensemble pour faire des morceaux qui nous plaisent et de faire des dates qui nous intéressent.
Est-ce que vous vous êtes tout de suite retrouvés, musicalement parlant, au sein du projet Monkberry Moon Orchestra ? Est-ce que vous venez un peu tous de la même veine musicale ou est-ce qu'il y a des influences diverses ?
Non, je crois qu'on vient tous de la même chose. Parce que c'était quand même assez précis comme nom. Le nom du groupe est déjà référence à un vieux titre de McCartney. Et puis, non, ça c'était assez clair. Et puis, je crois que tous les gens qui sont passés dans ce groupe, et puis encore maintenant, c'est très clair. On va pas faire quelque chose de complètement inversé demain. Enfin, peut-être qu'on le fera, mais en tout cas pas tout de suite. Mais du coup, non, ça c'est.
Donc c'est un prérequis obligatoire ?
C'est pas que c'est obligatoire, mais c'est que on s'est pas trop posé la question. Puis on a composé dans ce sens. Puis tout le monde a été là-dedans. Puis c'est comme ça reste un champ assez large finalement. Donc non, on verra. On n'est pas fermé en soi.
Moi, je vous propose qu'on passe à notre premier rendez-vous. Le principe est simple. Un artiste qui est passé avant vous dans l'émission a une question pour vous.
Alors, changement, on vous prête les câbles.
Oui, je suis
en train de faire la question. Ça va
être pour toi, Doré. Non, il y a un casque.
Du coup, non, c'est parce que c'est...
J'ai pas compris.
Ah ouais ?
Bon. Ouais. Un artiste a une question pour toi.
Salut Pierre-Henri des Duck Duck Grey Duck. Alors dis-moi, quelle est la plus grande dèche que tu t'es déjà tapé sur scène ?
Je sais pas, on s'en souvient pas.
Si, c'est d'oublier les paroles, c'est de louper un refrain, mais on fait comme si tout allait bien.
C'est pas très grave ça encore, casser des cordes, oublier, oui, ce genre de choses, mais...
D'accord. On n'est jamais tombé.
Des grosses dèches, je m'en rappelle, de la pluie, un orage une fois, au festival Château. Bruyant à Genève, mais vraiment un gros orage, on a dû arrêter le concert. Bon, après c'est pas une grosse dèche.
Ouais, moi la dernière quand on était à Cannes là, de pas chanter le dernier concert parce que j'avais envie de vomir puis de partir en courant à la fin du concert, ça c'était quand même
On a fait un tribute to David Bowie, ça c'était pas mal du tout. On était complètement à Vevey, au Rocking Chair. On était, qu'est-ce qui s'est passé ? On était complètement désaccordés.
Toi, t'étais désaccordé.
Moi, je sais pas ce qui s'est passé, on s'entendait pas.
Il y avait un son horrible.
Il y avait un son horrible.
On l'avait peu répété.
Donc c'était un peu le quart d'heure de solitude. Ouais.
C'est bien, vous donnez envie aux spectateurs de venir vous voir.
Ouais. Non mais c'est clair. Entre le...
Donc ça c'était pas la plus belle expérience qu'on a eue.
On va arrêter là,
scène.
Je crois. Bon, voilà.
Ouais. Des fois vous jouez juste quand même.
Bah souvent. Alors, le reste du temps.
Dans on va essayer d'écouter ça. Alors je vous propose qu'on écoute Velvet Glove.
Nous sommes avec Monkberry Moon Orchestra et vous venez d'écouter Velvet Glove.
Azimut.
Cette année, nous suivons avec Azimut le Swiss Live Talent. Et nous allons vous préparer un nouveau rendez-vous jusqu'au 14 novembre. Et je vous propose d'écouter tout de suite la première chronique.
Swiss Live Talent!
Jusqu'au 14 novembre, découvrez les nominés sur la Fabrique Charogne.
Chers auditeurs, cette semaine, sortez votre détecteur de métal. Nous partons pour le train de 17h, direction l'Argovie. Ah oui, c'est loin, mais ce point nous fait découvrir bien des choses, à commencer par une voix agressive, rythmée et variée. Écoutez-moi ça. Comme vous avez pu le remarquer, la voix de Sir Bourne est une femme, Lucy Berlin. Le groupe est également composé de Valentin Messingers à la guitare et bien sûr d'un bassiste et d'un batteur, car que serait un groupe de métal sans un bassiste et un batteur, respectivement Rémi Weibel et Stefan Eberle. Ces bourbines ont décidément vraiment tous les mêmes noms. Tous les quatre se définissent comme un groupe de thrash metal. Mais, parce que bien sûr, il y a un mais, Sir Bourne met un accent tout particulier sur la mélodie et le travail technique de leur musique. Ils évitent les répétitions et simplement qu'on se fasse pas chier à leur concert. Oui, parce que Sir Bourne revendique sa présence scénique importante. Si je peux bien vous donner un conseil, ne les sous-estimez pas, les métalleux, ne les sous-estimez pas. Je me suis toujours demandé ce que donnait une rencontre entre métalleux. Bref, ils se forment en 2010 et enregistrent un EP, Hazardous Substance. Tiens, je me demande ce que ça donne avec l'accent vaudois. Le morceau que vous écoutez en ce moment s'appelle Sexolence, tiré de l'album From Space, sorti en 2014. Plaisir pour les oreilles.
Azimut.
Donc c'était Sir Bourne nominé au Swiss Live Talents dans la catégorie rock metal.
Ouais, tout à fait.
Et justement, en parlant de concours, de tremplin, vous, avec les Monkberry Moon Orchestra, vous avez aussi participé à un concours jeune talent en 2014 en France. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience et comment est-ce que vous en êtes ressorti?
Alors, tiens, jeune talent. Jeune talent, Audrey.
Audrey est sollicité.
Lequel, Rock the Fist? Rock the Piste?
Bon, déjà, elle ne se souvient plus du nom.
C'était où? Eh ben, c'était chouette d'aller jouer sur les pistes de, je ne sais plus exactement, à côté d'Avoria.
Champéry.
Voilà. C'était Champéry. Très sympa de faire la première partie de Cali.
Est-ce que c'est ce tremplin-là en fait, dont vous parliez?
Oui, je pense que c'était le...
C'est le jeune talent...
On a participé à... On a été sélectionné pour...
Vous avez fait plusieurs...
Pour ce festival Rock the Piste. Mais en fait, en 2013-2014, on a été sélectionné par Châteaurouge Annemasse, en fait, qui font un dispositif qui s'appelle Sortie de Piste. Voilà, Sortie de Piste. Il ne faut pas confondre avec Rock the Piste.
Il y a de quoi confondre.
Il y a de quoi confondre. Bravo, Dédé. Et bon, voilà. Donc, on a été coaché, accompagné pendant un an par Châteaurouge.
Annemasse,
qui nous ont payé l'enregistrement d'un EP 3 titres, donc c'était plutôt positif. Et puis, on a eu en répète un coach qui est venu nous donner ses conseils par rapport à l'enregistrement, par rapport à notre jeu. Et on a pu donc faire certaines premières parties, certains concerts. Donc, on a joué en première partie de Lilywood and the Pricks fin 2013. Et puis, on a donc pu faire 2-3 concerts. Donc plutôt avec de la promotion, un petit peu de promotion derrière. Donc c'était plutôt sympa, ouais.
C'était un gros coup de pouce.
Mais après un an, c'est quand même à nous de nous débrouiller et puis de pouvoir rebondir sur ce coup de pouce, en fait.
Justement, tu parlais de l'un d'eux. Il y a eu 3 EP au début. Alors, il y a eu Amanda and the Colored Feather en 2011, A Beat for the Lovers en 2012 et The Invitation en 2013. Ça, c'est pour rappeler que j'ai bien appris ma leçon.
Bravo.
Pour aujourd'hui.
Je l'ai fait répéter tous les soirs depuis la semaine dernière. J'en peux juste.
En écoutant du métal.
Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire cet album qui est plus long? Est-ce que finalement vous aviez suffisamment de titres et vous avez décidé de les mettre sur un album c'est parti d'un autre processus?
Non, on avait plein de titres parce qu'on faisait beaucoup de live et puis on s'est dit ouais, il faut qu'on mette tout ça sur un vrai disque au-delà du format 4 titres. C'était naturel. Et puis là, avant les formations changeaient à chaque EP. Là, la formation est toujours la même, donc on a maintenant plus envie aussi de faire que des disques 10, 12 titres.
C'est une manière d'officialiser un peu le
voilà,
groupe.
C'est un peu toujours pareil dans le sens où on travaille des morceaux sur scène, on les fait pendant un an, puis au bout d'un an, ils sont prêts, on a envie de les enregistrer, puis après on n'a plus envie de les jouer, puis on en fait d'autres, puis... C'est un peu comme ça.
Est-ce que le travail d'un 10-12 titres est le même, se fait dans la même perspective et le même raisonnement qu'il y a le travail sur un EP?
Disons que sur un EP, on avait fait deux EP pour dire d'avoir une actu. À chaque fois, ça a sonné un peu différemment parce que les membres étaient aussi différents. Et puis pour faire quelque chose rapidement qui correspondait aussi vachement à ce qu'on faisait en concert au même moment, parce que c'est une carte de visite. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi des EP, qu'on n'a pas fait un disque tout de suite. Puis le groupe était jeune, et puis quand on lance un groupe, des fois c'est bien de faire un EP. Enfin, après il peut y avoir diverses raisons de faire un 4 titres. Un 4 titres, ça peut être très chouette aussi, parce que bon, on l'avait fait en CD, mais sur un format vinyle il y a 2 titres par face, ça peut, voilà, c'est quelque chose qui peut bien marcher. Mais l'album est quand même plus sympa à faire, et puis c'est quelque chose, un aboutissement. Et puis là, voilà, même si on l'a enregistré il y a 2 ans, on en est toujours content. C'est quand même, ça reste toujours assez fidèle à ce qu'on fait aujourd'hui en concert, même s'il y a plein de morceaux qu'on ne joue plus. Et donc voilà, c'était plus par ce souci d'avoir une carte de visite actuelle par rapport à comment on évoluait rapidement, tant en termes de musique, de niveau et de musiciens, qu'il fallait qu'on ait quelque chose sous le coude, quoi.
L'album donc Velvet Glove a été enregistré sur le label Pop Club Records, qui est un label que vous avez créé en tant que membre du groupe. Pourquoi justement, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'obligation de créer un label, ou est-ce que c'était déjà une volonté à la base?
En fait non, c'était pas vraiment une volonté. À la base, on était quelques groupes, on était tous 3 groupes. On s'est dit on va monter une association pour les cachets, pour avoir un peu une structure administrative. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, bon, bah voilà, cette structure, elle existe. Ça a un sens parce que c'est des groupes qui font un peu la même musique. On va essayer d'avancer avec ça. Et du coup, au début, c'est juste le pop club. Après, on a rajouté le mot records. Et puis, après, les disques qui sont arrivés, comme Velvet Glove, c'est sorti sous étiquette pop club. Donc, on était référencés comme ça. Et puis voilà, puis au fur et à mesure ça a pris de l'ampleur, et puis maintenant on en est au point de signer d'autres artistes qui sont extérieurs à nous, quoi. Puis c'est une activité qui nous intéresse aussi au-delà d'être musicien, enfin je parle pour moi. Mais du coup, oui, si on est tous plus ou moins actifs à ce niveau-là. Et puis, oui, c'est vrai que c'était aussi difficile de trouver des labels. Avec ce disque, on en a eu la... C'était un peu l'ultime preuve aussi, quoi. C'est-à-dire, on a démarché plein de choses, plein de labels. Voilà, quand un label au fin fond de l'Angleterre nous propose une distribution numérique en nous prenant tous nos droits, on s'est dit, la distribution numérique, on peut la faire nous-mêmes. Et puis autant qu'on se concentre sur nous et puis sur comment on peut communiquer, trouver des concerts et plein de choses. Après, on travaille avec plein de structures, des éditeurs ou autres, des gens qui nous aident aussi. Donc on n'est pas fermé à ça. Mais c'est vrai que pour le côté production, en tout cas de faire le disque, là on est en train de voir pour avancer dans la distribution, finalement on peut le faire nous-mêmes, quoi.
Et justement, petit à petit, il y a d'autres artistes qui arrivent sur ce label. Comment justement sont choisis les autres artistes? Vous les choisissez par affinité musicale, par ça j'imagine.
Dans un premier temps par affinité musicale, et puis c'est des là on commence en fait. Là, il y a trois artistes qu'on a un peu signés cette année. Nous après on fait le truc de manière très simple, on prend aucun droit. Nous on veut juste presser des beaux disques, on va faire que du vinyle. Et l'idée, c'est de, pour l'instant, de faire de la musique qui est assez proche de la nôtre, qui est différente. Et puis là, pour l'instant, on l'a fait avec des gens qu'on connaît déjà depuis un petit moment, avec qui on est potes ou avec qui on a déjà fait de la musique. Donc, on le fait. Voilà, on essaie de s'ouvrir aux gens, mais c'est, je pense, avant tout question de rencontre et de voilà, de faire les choses de manière le plus simple, naturel et puis le plus simple possible, mais voilà, l'idée c'est de faire du vinyle, peu d'exemplaires, mais d'essayer de sortir des jolis disques, ouais.
Alors peu mais bien, c'est formidable. On va écouter un peu plus de cet album. Je vous propose qu'on écoute Karma on My Side.
What goes up always falls back down. inside. What goes around comes around. Now I've got the karma on my side.
Vous écoutez Azimut et c'était Karma on my side.
Ah, Azimut.
Nous sommes toujours avec les membres du Monkberry Moon Orchestra et sur votre page Facebook, vous avez mentionné les références suivantes, entre autres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, The Beatles, The Mamas and the Papas, Blondie, Serge Gainsbourg, Belle and Sebastian, Neil Young, The Beach Boys, Nancy Sinatra, The Velvet Underground, The Bee Gees, Jefferson Airplane and many more.
Oula.
Vous ne seriez pas un peu nostalgique de cette époque ?
Oui, non. Okay. Non, je sais pas. On n'est pas fixé, on n'est pas des obsédés de cette époque-là. Après, il se trouve que la musique qu'on aime, peut-être ça vient de nos parents, parce qu'on a écouté la musique de nos parents, et puis naturellement, on se tourne vers cette période-là. Mais après, il y a beaucoup de choses qui se fait actuellement qu'on aime aussi. Je pense que tant qu'il y a une belle composition derrière, qu'il y a une belle chanson, une belle mélodie, avec une belle instrumentation, ça va nous toucher, que ce soit les années 60, 70, 80 aussi même parfois, et puis l'époque actuelle. Donc non, on n'est pas arrivé à cette époque, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on aime qui vient de là, qui vient des 60s, ouais.
Tu disais que c'était une musique qui avait été amenée peut-être par tes parents qui écoutaient ça. Est-ce que c'est le cas de vous aussi ? Enfin, comment s'est passée la rencontre avec cette musique des années 60-70 ? Est-ce qu'il y a un moment dont vous vous rappelez qui a été un peu le je sais pas, peut-être le déclic ?
Ah oui, moi beaucoup. Ouais, mes parents écoutaient pas mal de musique. Enfin, surtout mon père. Je fais pas mal les paléos, des trucs comme ça quand j'étais gamin. Et puis. Ouais, c'était inconscient, mais c'est revenu en pleine figure quelques années après, puis je pense que ouais, ça a joué. Tes parents, toi ?
Non, pas spécialement mes parents, c'est toi.
Ah ouais, voilà. C'est ça, c'est des filiations, quoi.
C'est tout ce que tu me faisais écouter, donc je pouvais que aimer.
Oh,
oh, c'est gentil. Oh, bah, et toi, Fred ?
Moi, en fait, je sais pas. Mes parents écoutaient de la musique, mais je crois que quand j'étais né, c'était déjà fini, donc... Mon père m'en a parlé un peu, mais je crois après que cette musique aussi, elle appartient à l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on a tous un peu ces images d'Épinal qui sont présentes. Il y a un côté 30 glorieuse qui est où tout est cool, tout va bien, les hippies et tout ça. Et je pense que ça apaise pas mal de gens, même la musique soul des années 60, 70. Je crois que ça parle à tout le monde, même sans qu'il l'ait écouté. Je pense que ça parle à tout le monde parce que c'est... C'est des musiques super positives avec vachement de groove, vachement d'énergie et voilà. Voilà.
Pour rebondir ce que tu disais avec ce côté good vibes et tout ça, est-ce que cette pochette d'album que j'ai sous les yeux, ça va être difficile. Est-ce qu'elle est inspirée aussi de ce côté un peu flower power parce que vous êtes quand même dans les arbres, dans les fleurs.
C'était un peu naturel en fait, on s'est dit on va faire des photos au milieu des arbres. C'était un dimanche, je sais plus. On est sortis, on est tous arrivés avec nos t-shirts rayés. Puis on s'est dit voilà, on va faire des photos. Puis on a un pote qui est un super bon photographe et puis qui est bien dans cette esthétique-là. Puis
après, c'est vrai qu'il y a des couleurs pas celles qui peuvent rappeler cette époque, c'est vrai. Mais l'idée, c'était de faire une photo devant, dans la nature, devant des arbres, devant des plantes, devant des fleurs.
Puis ce côté fond floral avec l'écriture blanche dessus, voilà. C'est quand même...
Ça, c'est un peu référencé, c'est vrai.
Ouais, c'est ouais. Un... Ouais. Enfin...
Ah non, on n'aurait pas fait, on aurait pas fait un truc pas... avec des pulls à capuche.
Ouais, et puis avec, je veux dire, une police noire bien agressive, on n'aurait pas fait ça, parce que ça n'aurait pas forcément correspondu à ce qu'il y a à l'intérieur du CD, enfin à notre musique. Donc oui, c'est un petit peu référencé quand même.
Justement, on parle des références au niveau visuel, en quelque sorte, de cette époque-là. Mais comment est-ce qu'on recrée musicalement aussi cet univers aujourd'hui ? Quels sont les ingrédients pour
En fait, le truc, il n'y a pas vraiment de règles. Nous, c'est un peu une musique qu'on a tout le temps écoutée, puis on a toujours joué de cette manière-là. Moi, je n'ai jamais fait vraiment de musique différente. Là, on fait un projet qui est plutôt assez pop, mélodique, mais... fait des trucs aussi plus rock, mais qui restent toujours dans une esthétique assez rétro, parce que c'est un peu la musique que j'ai toujours écoutée, puis je joue comme ça, et ça sonne comme ça, et puis on est un peu tous dans ce cas-là, donc finalement, c'est pas si compliqué de jouer. En fait, il y a eu tellement de styles que maintenant, voilà, on peut vraiment... Il y a des musiciens qui jouent de plein de styles différents, et moi, je sais faire ça, en fait, donc... Après, il y a l'enregistrement. Nous, on n'est pas des malades de tout faire à bande. On veut quand même un peu d'analogique, faire des choses de manière assez pure, avec des bons micros, des bons trucs. Et on veut pas sonner numérique. La musique qu'on a écoutée des années 90, c'était une musique très numérique. Et c'est vrai qu'elle est à des années-lumière aussi, un peu de. Même s'il y a des trucs qu'on aimait, de ce qu'on veut faire et de la vision du son qu'on a, qui est quand même assez un peu à l'ancienne.
Vous êtes également très présent sur scène. Vous avez fait de nombreux concerts, etc. Est-ce que les compositions du studio sont strictement les mêmes que celles sur scène, ou est-ce que vous vous autorisez justement quelques modifications du studio à la scène ? Il me semble que vous avez dit plutôt que vous préparez d'abord vos morceaux sur scène avant de les enregistrer, en quelque sorte.
Alors effectivement, c'est vrai qu'on va composer, on va les tester sur scène, mais après on les a testés dans différentes formules, donc ça nous a permis aussi de les tester soit en acoustique, suivant les lieux, soit en électrique. Des fois ça a eu lieu même en duo. Ça permet un petit peu de voir l'essence un peu du morceau, ce qui est important, les fioritures, comment... Et après ça nous permet, quand on l'enregistre en studio, de savoir exactement ce qu'on veut aussi. Ça permet de savoir l'essentiel, quoi.
Donc maintenant, vous nous avez parlé de comment vous faites en acoustique, en électrique, et Yann nous parlait de jouer, et justement, vous allez jouer pour nous en acoustique. Quel est le nom du morceau que vous avez choisi ?
Alors, c'est un titre qui est pas sur l'album, c'est un de nos nouveaux titres qui apparaîtra sur le prochain album qu'on compte enregistrer dans le courant de l'année prochaine. Donc on a déjà un set de 10 à 15 chansons. Et donc la chanson s'appelle Digital Fairy Tale. Voilà.
Donc, chers auditeurs, vous êtes des grands privilégiés cette semaine. On va écouter ce titre en exclusivité.
2, 3, 4 et... I see you from where I stand, bursting from your wonderland. All your pretty pictures once again. You are living in a dream, and although it can be real, I like to pretend being with you. Living in a digital fairy tale, you've bound us so. Under your spell you get insane, and sometimes I forget my name. I'm looking for love. I touch my screen and hope I will find love, beautiful love. I'm blind, I'm dumb, but think I will find. You live in the material world, in a sea of shoes and stick. You're the golden cherry, blossom girl. Living soul. Under your spell you get insane. And sometimes I forget my name. I'm looking for love. I touch my screen and hope I will find love, beautiful love. I'm blind, I'm dumb, but I think I will find. I touch my screen and hope I will find love, beautiful love. I'm blind, I'm dumb, but I think I will find. I didn't see you were so close to me. And if I cry, you won't come back to me. Didn't see you were so close to me. And if I cry, you won't come back to me.
Eh bien, merci beaucoup et on se réjouit de découvrir donc ce titre parmi tant d'autres sur un prochain album, qui sait. Et changement de décor avec Sibyl qui va nous présenter, qui revient cette année avec sa chronique écologique pour nous présenter un nouvel artiste.
Adieu le chalet. Voilà, ça y est, c'est la rentrée. C'est le retour d'Azimut, mais c'est aussi le retour de l'écologie musicale. Et oui, je suis toujours là pour briser votre ambiance. Ah, belle blague grivoise. Ah, mauvaise foi de mon cœur. Bonsoir. Ce soir, la foi, il va falloir en avoir un peu besoin, puisque je vous réserve une séance toute particulière. Qui dit rentrée,
tu fais peur.
Dit nouveauté. Oui, un peu, je m'assume. N'est-ce pas, mes chers, la nouveauté? Ceci étant dit, je vous propose de vous faire partager mes talents de clairvoyance. Je vais donc vous faire part de 4 de mes révélations mystiques que j'ai eues cet été. Je tiens quand même à spécifier que ces révélations me viennent d'un monde supérieur et astral où seuls les dauphins sont maîtres des lieux. Première révélation, aussi choquant et outrancier que cela puisse paraître, Jésus était juif.
Mais non.
Oui, je comprends ta réaction, Anne. Moi aussi, quand on me l'a dit, j'ai pleuré. Deuxième révélation, j'aimerais que tout le monde garde son calme. À l'annonce de cette révélation, vous risquez de perdre une partie de votre enfance. Oui, les tomates sont des fruits. Je suis navrée. Est-ce que je peux continuer? Ça va, vous tenez le coup?
Ça va être dur, t'en as encore.
Ma troisième révélation relève de l'appréhension du cosmique. Je vais vous demander de garder l'esprit bien ouvert. J'en profite pour vous dire que vous êtes en droit de déposer une offrande dans le panier mis à cet effet sur la table. Je vous remercie de, de votre redistribution volontaire des richesses. Ou mes merci de votre bonté. Quelle âme! C'est sans précédent. Déchargez-vous du matériel et entrez dans le spirituel. Nous pouvons donc en venir à ma quatrième révélation. Ce n'est pas vraiment un cadeau, mes chers. Très chers amis, c'est une révélation musicale, ou plutôt une non-révélation musicale. J'ai lu l'avenir dans différents jeux de cartes, dans les astres, dans les lignes des mains, des pieds et des poutres, ainsi que dans les nombres. Je sais que tu aimes ça, Anne. Mais ceci ne sera jamais un tube. Ni maintenant, ni plus tard, ni ici, ni sur une autre planète. Si Raël vous dit le contraire, ne l'écoutez pas. Je suis la seule sagesse et la seule lumière vraie. Bref, j'aurais pu dire du mal de son nom et de son physique, mais nous sommes bien au-dessus de ces petites limites terrestres. Hein, Martine? Entre Anne Romanoff et Joséphine Ange-Gardien en brune, Martine de Freudenreich a déjà sa tête sur un single et est à la tête de tout un album. Martine de Freudenreich. En français, ça donne Martine de Riche de Joie. Un autre artiste dirait, si tu n'existais pas, Martine, il faudrait t'inventer. J'ajouterais, ou pas. Et merde. J'ai encore fait l'erreur sidérale de revenir à ces faits terriens rudimentaires. Je vous propose donc que nous nous élevions ensemble en écoutant « J'ai juste entendu ta voix » et remercions Martine pour son merveilleux témoignage.
J'ai juste entendu ta voix. J'ai juste entendu ta voix. Et mon cœur s'est mis à cogner. Et mon âme s'est envolée.
C'était la merveilleuse Martine de Freudenreich avec son morceau « J'ai juste entendu ta voix ».
Ah ouais, Azimut !
C'est le moment de notre dernier rendez-vous, mes chers, la boîte magique.
Tu te souviens la dernière fois ?
La dernière fois ? Ah, bah, ce sera la dernière fois.
Donc voilà, les questions de la dernière fois et je vous propose de chacun prendre un petit papier dans la petite boîte.
Dis donc.
Un petit papier rose.
T'es excitée.
Un petit papier blanc.
Blanc.
Que tu as écouté.
Un autre petit papier blanc.
Ah mais prends.
Et un autre papier blanc. Qui veut commencer? Allez, Audrey, on t'a pas beaucoup entendu.
Alors, la dernière fois qu'on t'a raconté une blague, bah, c'était juste avant d'arriver. C'est Yann, notre humoriste de grand talent. Le problème, c'est que je ne les retiens pas, à part les contrepétries qui sont absolument dégoûtantes.
Des tracks aussi, quand même.
Ouais, voilà. Mais avec Yann, en fait, niveau blague, il y a toujours des dernières fois, en fait.
Je peux t'en raconter une hors micro, puis tu peux la répéter après, d'accord?
D'accord.
Alors, la dernière fois que tu as écouté une chanson ailleurs qu'ici, bah, à la maison, juste avant de venir.
Qu'est-ce que c'était?
Du Laurie.
C'était une chanson, je crois que j'ai écouté un CD de Bob Dylan à la maison. Voilà. Voilà.
Très bien.
Tout Fred, simplement.
Fred, tu as l'air perdu quelque part dans le vague. Ouais. Tu es très très loin de nous. Tu es parti dans le cosmique pendant
je
la chronique.
Je suis un grand rêveur. C'est Frank Reich, machin.
Je crois que ça va vous rester.
J'en,
hein,
rêve, j'en rêve encore. Ouais. Alors moi, la question, c'est la dernière fois que tu as eu un fou rire. C'est une très bonne question. Ouais, c'est vrai, je crois que c'est ça. Non, je crois que c'est la dernière fois que je me suis vu tout nu dans le miroir.
Oula.
On peut pas le vérifier, ça, en même temps.
Alors, vous allez vérifier maintenant.
Non, il y a des gens sensibles dans le studio.
Je me souviens pas du tout, dernier fou rire. Je suis tellement triste.
Oh. Tu sais, si tu viens la bonne journée, Baptiste fait la journée internationale des câlins, si jamais.
Ah, cool.
Et Alex,
ton petit papier. Je tire ce truc parce que ça me va bien. La dernière fois que tu t'es fait péter la bide avec une bonne bouffe, Ça me va bien. C'est tout le temps, quoi. Enfin, régulièrement, en fait, parce que j'aime bien manger, donc...
Tu es un bon vivant.
Plus. Ouais, la dernière fois... Oh, y a plein
c'est ton cas, sponsorisé en fait, par Mike Wong.
En fait. Ouais, bah, ouais. Non, Mike Wong, c'est au passage. Bah, en fait, de la pub, c'est pas bien, merde. Je sais plus. Non, mais...
C'était pas dimanche soir.
Dimanche soir... Ouais, il y avait un mariage dimanche soir. Enfin, plein. Ces derniers
tout
jours.
Le temps,
c'était
quoi.
Pas il y a 6 mois. Quoi.
Dès que tu peux.
Ça, c'est sûr. Ouais. Voilà.
Il fait son temps de fin d'ailleurs.
Alors, pour parler un peu plus sérieusement, et pour moi aussi, je sais voir l'avenir, Sybille, tu vois. Puisque
toi
vous
aussi,
allez.
Tu allais voir le gourou au mois de juin.
Exactement, un autre gourou peut-être.
Voilà.
Vous allez jouer ce week-end. Dans un festival à Beauvais en Haute-Savoie qui s'appelle Are You Ready for the Country, qui est qualifié justement par vous-même sur les réseaux sociaux de fête de hippie à la montagne, à peu près, c'est un peu ça le principe, il me semble. Est-ce que justement, parce qu'il me semble qu'il y a des feux de joie, etc., est-ce que c'est un univers dans lequel vous vous retrouvez justement, qui vous correspond bien ou au moins à l'âme du groupe ?
Oui, tout à fait, parce qu'on trouve sympa d'aller jouer dans un cadre un peu atypique. Là, c'est pas un festival avec des entrées, des bracelets, enfin, voilà. Là, c'est dans un champ. Il y a une scène. On va jouer. Il y aura un feu de joie. Les gens apportent à manger, à boire. Et puis, c'est très simple. C'est finalement pas si évident de faire des choses très simples aujourd'hui. Mais voilà, on fait des trucs comme ça et on aime tout autant que de faire d'autres dates ou même des fois d'aller dans des grandes villes où on est mal accueilli dans des petits bars ou des clubs ou voilà, enfin c'est avant tout l'ambiance qu'il y aura, mais je pense que ça va être chouette, ouais.
Sur votre clip Velvet Glove, qui est donc un titre éponyme de l'album, ce clip prend des airs un peu de road trip comme ça. Quelle sera justement la prochaine étape de ce voyage, de ce road trip? Là, je parle des prochains projets.
Des prochains projets. Voilà, on a ces projets de disques avec le chanteur folk lyonnais Lauren Stewart, où on va l'accompagner pour un album, donc tout le groupe. Donc ça nous fait du bien aussi de faire autre chose. Après, il n'est pas si éloigné de ce qu'on fait. Et puis, on aura un autre projet de disque de nos morceaux. Là, on a un peu arrêté de faire des concerts, mais voilà, c'est un peu toujours des cycles. Hein. On fait des disques, on fait des concerts derrière, entre. Et après, on a envie de développer aussi le label. Voilà, le projet comme le Red Stewart, il est vraiment bien parce qu'on a envie d'avoir de l'échange avec d'autres musiciens et puis de faire des choses comme ça. Ouais.
Justement, ce projet avec ce chanteur, Lauren Stewart, comment justement se sont faites la rencontre entre le groupe et cet artiste, et puis ensuite l'idée du projet, comment ça s'est goupillé tout ça?
Alors voilà, ça fait partie des musiciens qu'on connaît depuis longtemps et avec qui on est amis. Et du coup, voilà, on avait chacun notre projet dans notre coin, puis je sais pas comment c'est venu sur la table, on s'est dit pourquoi pas le faire. Alors au début tout le monde est content, puis après on essaie de l'organiser, puis lui s'est bien bougé pour que ça prenne vie, et puis du coup les choses se sont faites naturellement. Il est venu avec des morceaux,
ouais, après voilà. C'est lui qui est arrivé avec une douzaine de morceaux qui nous a proposé, et puis en fait son idée c'était de collaborer avec nous parce qu'il nous voyait bien en backing band de ses chansons, et puis ça s'est fait donc naturellement, donc on a déjà fait quelques répètes. L'enregistrement aura lieu le mois prochain, avec une sortie d'ici début d'année prochaine, je pense. Ça se fait naturellement, ouais, comme Alexis l'a dit, c'est deux univers similaires. Et puis lui, il aime bien ce qu'on fait, nous, on aime bien ce qu'il fait aussi. Donc ça, voilà, c'est tout naturellement que ça s'est fait.
T'as eu une aventure avec lui, je crois.
Ce qu'il fait au lit, aussi, moi, j'ai entendu.
Ce qu'il fait au lit. Ça, c'est notre côté hippie, en fait. Faut venir ce week-end pour le vivre.
Alors, entre les scènes, qui sont nombreuses, le label, les différents projets, est-ce que finalement, vous avez toujours le temps de composer d'autres titres, des nouveaux titres, comme celui qu'on a entendu tout à l'heure?
On essaye de faire plein de choses. Moi, c'est vrai que, par exemple, j'avais fait pas mal de morceaux avant sur les précédents disques. Et puis, là vous avez pris un peu le relais et puis, puis c'est un peu comme ça, on fait un peu tourner celui qui a envie, qui compose beaucoup d'un coup, et ben on fait ses morceaux et puis... Mais pour l'instant, on n'est pas en pâte sèche, ça va
bien. Non, bah on n'est pas. On a toujours. On est trois dans le groupe, trois à composer. Donc si chacun apporte déjà 2, 3, 4 chansons, on arrive vite finalement à un album. Après, dès qu'on a un petit peu de temps libre, on a peut-être 2, 3 idées de chansons comme ça. On les met en route et puis au bout de 2, 3 semaines, même plus rapidement, des fois, on a déjà une compo qu'on propose en répète. Puis ça peut aller très vite. Donc ouais, en général on n'est pas trop en panne sèche, donc pour l'instant c'est plutôt pas mal quoi.
En espérant que ça dure alors.
Ouais.
Merci d'avoir été au micro d'Azimut.
Moi je sais d'autres choses sur votre avenir.
Ça y est, la gourou va parler.
Attention. Je sais d'autres choses sur votre avenir, entre autres que vous serez le 30 septembre au Brise-Glace à Annecy, en Haute-Savoie de nouveau. Vous allez bien connaître la région. Et puis, voilà, c'est tout ce que je savais, en fait. Je n'avais qu'une seule grande révélation. Voilà, ça change d'habitude. Mais on vous remercie beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci beaucoup.
C'était un plaisir. On remercie beaucoup nos deux petits techniciens tout mignons, Brian et Baptiste.
Oh oui, Brian.
Voilà, Brian, tu as déjà un fan. Je te donnerai le numéro d'Anne à la sortie. Oh, Anne, merci.
Alex.
C'est toi. T'as avec tes histoires au lit.
Merci beaucoup, Anne, pour cette interview.
C'est toujours avec plaisir. Et merci Sybille de nous avoir guidés à travers cette émission.
Mais viens, suis-moi mon enfant, il n'y a pas de problème. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et on se quitte en musique en écoutant toujours un titre de notre groupe, Last Farewell. Oh, everything is boring. Your girlfriend is annoying. You're just sick of everything. So tell me all your feelings. So why don't you follow me? So leave them now, don't worry. So why don't you follow me? What a very good brainwashing. Wake up a very bad idea. You're getting angry today. You'd better go back to bed. Now don't worry, so why don't you follow me? Johnny said goodbye.
Azimut, azimut, azimut.
They've never seen the great invaders. They've always been protected from the gods, the sun, the rain, warming up their soul, the soul, the rain, and the tears. But the other came, a knife in the back, they will say, sell me that, just take that, don't look back. Your home is my home.
Good.